Dernier épisode de notre série Joyeuses Fêtes du 6-9 sur France Inter. Et avant de changer d'année, avant d'abandonner 2019 pour 2020, notre invité ce matin est professeur à l'école polytechnique, philosophe. Il a écrit des livres passionnants consacrés à la nuit, consacrés à la fin du monde. Bonjour Michael Fessel.
Bonjour.
Et bienvenue. Expliquez-nous pourquoi, lorsqu'on passe d'une année à l'autre, ce qui va nous arriver dans quelques jours, c'est comme si on repartait à zéro, comme si on abandonnait un monde ancien pour pouvoir tout recommencer comme s'il n'y avait rien eu avant.
On commence, je crois, avant de passer justement à l'année qui arrive, par faire le compte de celle qui précède. Et vous savez qu'il y a un rituel qui fait d'ailleurs que c'est un moment toujours un peu angoissant, celui du 31 décembre, c'est le rituel des 12 coups de minuit qui marque comme la scansion du temps vers quelque chose de nouveau. Alors j'imagine que l'une des raisons pour lesquelles c'est la période des vœux, c'est la période pour laquelle on essaie de s'imaginer de quoi demain sera fait, c'est qu'elle est précédée par le moment où le bilan d'une année se fait, et où généralement ce bilan, la plupart du temps, n'est pas nécessairement positif. Par conséquent, on essaie d'exorciser un peu ce qu'il y a dans le temps, peut-être particulièrement à notre époque d'angoissant, par l'idée, qui est finalement peut-être superstitieuse, mais certainement aussi réconfortante, selon laquelle demain ne ressemblera pas à hier.
Et demain, ce sera mieux.
Demain,
mieux qu'avant. D'où vient cet espoir-là? Qu'est-ce qu'il dit de nous, en tout cas, et de notre rapport au temps?
Il montre en tous les cas que le rapport au temps que nous avons est assez linéaire, c'est-à-dire qu'en réalité, on imagine plus, il faut savoir que c'est pas forcément de toute éternité comme cela, le temps comme un éternel retour, comme un recommencement. Bon, là, il y a évidemment toute la tradition religieuse, monothéiste en particulier, cette idée que nous sommes sensibles à l'événement, à la nouveauté, à la révélation,
oui.
Et dans l'idée même, d'ailleurs, des vœux, de la nouvelle année, qui est par ailleurs plutôt d'origine païenne, mais néanmoins, il y a cette idée que la nouveauté a la prime par rapport à la répétition. C'est une sorte d'innovation, ou déjà une pensée de l'innovation, en tout cas de l'événement par avance.
Mais c'est de l'ordre de la superstition, selon vous, tous ces rituels qui sont liés à la chance, à la prospérité, à ce qu'on souhaite, à ce qu'on aime, et même à ce qu'on croise, tout simplement, même si ce sont des inconnus dans la rue. Oui, ce moment de la cérémonie des vœux, là aussi, qu'est-ce qu'il désigne?
C'est une superstition, mais c'est une superstition, je crois, assez rationnelle, au sens où personne ne croit véritablement, ou très peu nombreux sont ceux qui pensent que le simple fait de souhaiter une bonne année, une bonne santé, etc., va constituer un rempart. On ne s'adresse d'ailleurs pas à Dieu, c'est une manière, en fait, c'est assez rationnel, je crois, c'est une manière de socialiser nos rapports. Après tout, on commence toutes les journées où on rencontre quelqu'un par un bonjour, et un bonjour, c'est déjà, par la parole, une sorte d'espérance.
Oui, même si on oublie le sens même de ce mot.
On l'oublie, en général. On disait bonjour, enfin plutôt traditionnellement, on disait bonjour à la fin de la rencontre, mais c'est précisément par là que cela signifie qu'on essaie, parce que le rapport, évidemment, là, ça nous amènerait très loin, mais entre l'homme, l'humanité, je veux dire, et le temps, est un rapport qui est fondamentalement marqué quand même par une certaine incertitude, voire une certaine angoisse. Je pense que les vœux, que le bonjour, que la bonne année, c'est une manière de maîtriser l'angoisse par la parole, et c'est un acte qui finalement a l'air superstitieux, mais qui en réalité est assez rationnel, parce qu'il permet en quelque sorte de partager, sur un mode qui peut être plus ou moins festif, en tout cas le 31 décembre on peut espérer qu'il l'est, on l'espère, c'est pas toujours le cas, mais on l'espère, on partage au fond l'impartageable, c'est-à-dire l'angoisse qu'on a vis-à-vis de son propre avenir, on essaie d'une certaine manière de le maîtriser avec les autres.
Comment se fait-il qu'on y croit encore, à cette possibilité de tout recommencer, d'une nouvelle temporalité, alors que vous avez travaillé sur le sujet, tout indique que le monde irait vers sa fin. En l'occurrence, les signes ne manquent pas. On peut parler de l'accélération du réchauffement climatique, de la disparition des espèces. Bref, tout ce qui annonce que le monde court à sa perte, c'est comme si on oubliait ça, qu'on oubliait l'effondrement, le temps, oui, du 31 décembre, en tout cas le temps de cette fête et du basculement d'une année à l'autre.
Oui, je crois que cet oubli n'est pas forcément un oubli néfaste. Je veux dire par là qu'il y a, entre ce que nous savons, et nous en savons de plus en plus sur la crise climatique, sur les dangers extrêmement réels et quasiment universels maintenant, qui portent sur l'avenir de la planète, il y a entre ce que nous savons, donc, et ce que nous croyons, toujours un décalage. Parce que ce que nous croyons est quand même lié, pour le coup, à ce que nous éprouvons, notre rapport avec le présent et l'avenir, en sorte qu'après tout, on peut juger une société à ce qu'elle se souhaite à elle-même. Et aujourd'hui, il semblerait que...
Exemple.
Eh ben, exemple, on s'est longtemps souhaité collectivement, je dirais, le progrès, l'épanouissement, l'émancipation collective qui passait par la politique en règle générale, au moins au 19e et encore au 20e siècle, pour toute une série de raisons. Ces vœux-là ne sont plus, je dirais, d'une très grande actualité, quoique moi je pense qu'on pourrait les réactiver. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on se souhaite de durer. Hein. C'est-à-dire que, collectivement, nous avons surtout l'idée que, mais c'est une idée qui est peut-être un peu limitée par rapport au champ qu'elle ouvre, que ce que nous pouvons encore espérer du temps, c'est qu'il dure. Ce que nous pouvons encore espérer du monde, c'est qu'il se perpétue et qu'il ne disparaisse pas. Cela étant, je crois que cette espérance minimale, hein, que le temps dure encore un peu, elle est quand même un peu reniée par ce qui va se produire probablement dans les familles, entre les amis, c'est-à-dire au moment du 31 décembre, où on s'autorise quand même à se souhaiter un peu plus, je dirais, que simplement la répétition du même ou la perpétuation du monde.
Et c'est le temps de la fête, c'est le temps d'une nuit qui dure plus longtemps que les autres nuits, en tout cas dans la manière dont on la vit. Mais ce n'est pas le grand soir.
Non, ce n'est pas le grand soir, c'est l'attente d'un autre matin, plutôt, d'une aube qui parfois, en tous les cas, le 1er janvier est souvent une aube, d'ailleurs, où la gueule de bois accompagne en même temps, d'une certaine manière, l'expérience ou l'espérance. La nuit, bon, on aime ça ou pas, hein, la nuit de la fête obligatoire ou du 31 janvier, c'est une nuit qui contracte un petit peu les espérances du temps, et en même temps, souvent, ou plutôt par après, le sentiment qu'au fond, les vœux qu'on s'est adressés ou qu'on s'est adressés à soi-même, ces vœux seront, au fond, en quelque sorte, de toute façon toujours déjà reporté. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement les vœux qu'on fait aux autres, parce que ça, enfin, c'est intéressant au sens où c'est une manière de socialiser la fête, c'est qu'est-ce qu'on s'adresse à soi-même, les résolutions. Alors l'idée de résolution, elle est assez intéressante parce que elle maintient quand même cette idée qu'on peut changer, qu'on peut se transformer, qu'il y a quelque chose de nous-mêmes qui n'est pas engagé dans la répétition.
Vous êtes venu avec un texte de Nietzsche, un texte écrit un jour de gueule de bois, justement, peut-être un matin, un 1er janvier.
Alors je ne sais pas s'il avait la gueule de bois, mais il a écrit cela, en tout cas, au petit matin du 1er janvier 1882. Et puis, avec ironie, il commence par se dire, après tout, tout le monde s'autorise aujourd'hui à se souhaiter des choses, alors je vais me souhaiter quelque chose à moi-même. Et il écrit, je me souhaite à moi-même d'apprendre toujours plus à voir le beau dans la nécessité des choses. Je ne veux pas accuser, je ne veux même pas accuser les accusateurs pour cette nouvelle année que regarder ailleurs soit mon unique négation. Alors j'ai trouvé cette formule, je trouve cette formule que regarder ailleurs soit mon unique négation particulièrement inspirante.
Qu'est-ce qu'elle veut dire ?
Parce qu'elle veut dire qu'au fond, Nietzsche à ce moment-là ne se pose pas la question de transformer le monde, de changer le monde. Il veut changer le regard sur le monde. Et peut-être pour changer le monde, pour retrouver la force de le transformer, il faut d'abord cesser de le regarder avec le regard négatif, avec le regard, je dirais, plein de ressentiments. C'est ça que critique Nietzsche ici. Il ne veut même pas accuser les accusateurs. Ça veut dire, au fond, sortir un peu de ce qui fait notre quotidien, hors de ces périodes peut-être de fêtes, qu'on appelle des trêves d'ailleurs. Ce qui fait notre quotidien, c'est-à-dire en France en particulier, des combats idéologiques d'une plus grande sévérité, d'une plus grande, parfois, intolérance.
Et donc, apprendre à dire oui ?
Apprendre à dire oui, exactement. Ce qui ne veut pas dire apprendre à dire oui à toute chose, mais apprendre à regarder l'avenir du point de vue de ce qu'il promet, et pas seulement du point de vue de la menace qu'il constitue.
Merci à Friedrich Nietzsche, merci à vous Michael Seussel, c'était passionnant. Et après la fin du monde, je recommande très chaleureusement cet essai qui est publié aux éditions du Seuil. Bonne fête.
Bonne fête.